Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Six pays producteurs de poivre se rencontrent à la 44e réunion de la communauté internationale du poivre à Jakarta. Les forces spéciales sont prêtes à libérer les citoyens indonésiens qui ont été pris en otage. Pertamina et SNIP ont signé un protocole d'entente du développement en chambre pétrolière en Iran. L'Indonésie et Taïwan coopèrent pour développer le secteur agricole. La base aérienne de l'armée de l'air indonésienne, Delta Rikupang, devient la base de l'exercice de vol international. Et enfin, cet ambassadeur assiste au festival culturel de la vallée Baliem. Voici le journal complet. Les six pays producteurs de poivre regroupés dans la communauté internationale du poivre, IPC, se rencontrent à Jakarta du 8 au 11 2016 dans la 44e session et réunion de la communauté internationale du poivre. Cette réunion est une forme d'engagement de continuer à renforcer la coopération entre les pays producteurs et les consommateurs afin de faire face aux défis de l'industrie du poivre à l'avenir. Le ministre indonésien du commerce, Enggar Tias Tolukita, lors de l'ouverture de la 44e session et réunion de l'IPC à Jakarta, a affirmé lundi, le 8 août, qu'il y avait cinq questions stratégiques qui nécessitent une attention de toutes les parties prenantes. Premièrement, les pays producteurs de poivre devraient être encouragés toujours à maximiser la contribution dans le secteur de poivre, dans la construction, la création d'emplois et la protection de la société par intermédiaire l'augmentation de la productivité, la diversification et la valeur ajoutée, ainsi que les aspects de marketing afin d'élargir le marché. Deuxièmement, la viabilité à long terme et la résilience du secteur de poivre dépend de nouvelles recherches et l'innovation qui renforcent l'industrie en amont et en aval. Troisièmement, la coopération et la coordination de toutes les parties prenantes pour stabiliser les prix. Le ministre Enggar Tias Tolukita a ajouté qu'une quatrième question qui devrait être l'accent est sur la qualité et les normes de sécurité alimentaire. Il est très important d'être une préoccupation parce que le marché est très concentré sur la sécurité et les normes de référence pour l'industrie alimentaire mondiale, y compris le poivre. Tandis que la cinquième question est liée à l'élargissement de l'adhésion de la communauté internationale du poivre qui se compose actuellement du Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et le Vietnam en tant que membres permanents et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en tant que membres associés. Lors de cette réunion, le ministre Enggar a également eu l'occasion de donner le prix de la communauté internationale du poivre pour les producteurs et les exportateurs de chaque pays membre de la communauté internationale du poivre. Le commandant de l'armée nationale, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que les forces spéciales TNI étaient prêtes à déployer des troupes dans la zone d'opération pour libérer les citoyens indonésiens qui sont retenus en otage par le groupe Abu Sayyaf aux Philippines. Mais il n'a pas été facile car il implique la souveraineté territoriale des pays voisins. Jusqu'à présent, les citoyens indonésiens qui ont été pris en otage par Abu Sayyaf atteignent 11 personnes et ne sont pas encore libérées. Gatot Nurmanti a affirmé lundi à Jakarta que le gouvernement indonésien était toujours la priorité à la diplomatie dans ses efforts pour libérer les 11 citoyens qui ont été pris en otage, mais les résultats ne sont pas encore signifiants. Les entreprises publiques appartiennent à deux pays, PT Pertamina Persero de l'Indonésie et la Société nationale iranienne du pétrole, SNIP, ont signé un protocole d'entente d'une étude préliminaire sur le développement de deux champs de pétrole à grande échelle dans ce pays du Moyen-Orient. La signature a été faite par le président-directeur de Pertamina, Dwi Sucipto, et directeur général de la Société nationale iranienne du pétrole, SNIP, Ali Kardor, au siège de SNIP à Téhéran, en Iran. L'Iran est l'une des priorités de Pertamina. Nous sommes sérieux pour faire les investissements en amont qui soutiendra l'Iran dans l'amélioration de la production. Cela est en ligne avec les efforts de l'entreprise de soutenir la sécurité énergétique nationale, a déclaré Dwi par une déclaration écrite reçue par Antara mardi. Les deux sociétés ont également convenu d'explorer d'autres occasions d'affaires. Sur la base de ce protocole d'entente, Pertamina a 6 mois pour mener une étude et présenter une proposition préliminaire du développement des deux champs qui ont les réserves de pétrole environ à plus de 5 milliards de barils. Pertamina souhaite qu'après la signature du protocole d'entente, la coopération avec la Société nationale iranienne du pétrole puisse être réalisée plus concrète sous la forme de l'accord de contrat pour les deux champs pétrolières. Les ministres de l'Agriculture de l'Indonésie et Taïwan à travers Bureau économique et commercial de Taïwan établissent une coopération afin de développer les produits agricoles en établissant la Green House et Peking House à Lembang, la résidence de Bandung, ouest de la province de Java-Ouest, lundi. Le chef du Centre de la formation de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, Widi Haryono, a dit que cette coopération était une occasion pour l'Indonésie de développer de meilleures récoltes et de donner des impacts au bien-être des agriculteurs indonésiens. La coopération sous la forme de la formation de la gestion des exploitations agricoles et l'emballage des produits agricoles au public qui aura un impact sur l'augmentation du prix de vente des produits agricoles. Selon Widi Haryono, Taïwan coopérait avec la province de Java-Ouest et aussi Bali et Java-Central. Le potentiel agricole en Indonésie est encore très grand afin d'être développé pour le bien public. Le commandant de la base de l'armée de l'air indonésienne Delta Hi Kupang, le colonel Jori Koloai, a affirmé que l'espace d'air dans la base aérienne de l'armée de l'air indonésienne, TNI-AU, a été déterminé par le leadership de TNI-AU comme base de l'exercice de vol et la coopération internationale. Jori Koloai a déclaré aux journalistes en marge de l'exercice de vol en 2016 dans la base aérienne Delta Hi Kupang lundi, a expliqué que la détermination de ce lieu d'être l'exercice de vol conjoint avec les pays voisins a été faite depuis l'année dernière. Comme cité par Antara, l'exercice de vol est plus concentré sur les pays voisins, y compris le Timor oriental et l'Australie. Un total de 7 ambassadeurs des pays voisins d'Indonésie sont présents au Festival culturel de la Vallée Balium qui se tient du 8 au 10 août 2016 au district de Walesi, la préfecture Jayawijaya. Le vice-régent de Jayawijaya, John Richard Banua Awamena, a déclaré lundi que 7 ambassadeurs provenaient de la Suisse, l'Italie, l'Arménie, la Hongrie, la Bulgarie, le Mexique et l'Inde. Il espère que l'arrivée des ambassadeurs peut donner une bonne impression pour la Papouasie, en particulier Jayawijaya. John Richard a affirmé que ce festival culturel était un festival qui a lieu chaque année. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis lointains, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la façon sage au respect du patrimoine culturel des ancêtres au milieu du progrès rapide de la technologie. L'écoulement rapide de la technologie sophistiquée a facilité la vie de l'homme. Il comprend la technologie agricole qui est maintenant plus avancée et capable de soutenir la vie humaine avec une seule plantation. L'impact du progrès technologique se fait sentir dans divers domaines, y compris la culture et la tradition indonésie. Cependant, les hommes sont encore en train d'harmoniser entre la technologie très avancée et le patrimoine culturel. Il y a quelque temps, les agriculteurs à Banjar Gerianakau, le village du nord de Duda, Karangasem, Bali, au milieu de l'ère de la modernisation, ont choisi de faire revivre la danse de Sang Hyang de Dari pour maintenir la viabilité des chamberies et de l'environnement. Cette danse est un rituel et l'un des patrimoines culturels du monde qui est encore dansé. Sang Hyang de Dari est l'un des trois danses sacrées reconnues comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou UNESCO, ainsi que la danse de Rejang et la danse de Baris Upacara. La raison de faire revivre cette danse est parce que la plupart des résidents de Banjar Gerianakau sont des agriculteurs. Ils choisissent d'effectuer à nouveau le rituel pour restaurer le chamberie et les relations entre les communautés qui ne sont pas bien depuis plus de 10 ans. Les chamberies dans cette région ont été endommagées car, selon eux, ils ont manqué les rituels. Les agriculteurs ont également utilisé des semences non biologiques, d'engrais chimiques et des pesticides nocifs pour l'environnement, ce qui provoque le sol a perdu sa fertilité comme il a été contraint de produire toujours. Même les animaux qui vivaient dans les champs ont disparu. L'impact du chamberie endommagé a élargi et les gens ont perdu leur intérêt à travailler leur terre. Beaucoup d'entre eux ont quitté le village et leur profession comme les agriculteurs et déplacé vers les villes pour essayer d'une meilleure vie. Les chamberies ont été touchées par la sécheresse et les ravageurs, de sorte que les agriculteurs sont de plus en plus souffrants et ont souvent été impliqués dans des conflits entre eux. La danse Sang Hyang de Dari est un rituel qui vise à éviter les maux et à montrer sa gratitude pour la récolte. La danse rituelle de Sang Hyang de Dari est finalement effectuée régulièrement chaque année quand le riz original de Bali, connu sous le nom Padi Bodong ou riz jaunissement autour de la fin de mars au début d'avril. À cette époque, les villageois commencent à travailler ensemble pour préparer la procession de danse rituelle Sang Hyang. Raviver la culture ancestrale est devenu la raison du gouvernement de prendre en considération les aspects socio-culturels et environnementaux afin de favoriser la productivité agricole. En effet, les méthodes agriculture traditionnelles, écologiques et respectueuses de l'environnement devraient devenir une préoccupation parce que les deux aspects, le rituel et l'agriculture jouent un rôle important de prendre soin les uns des autres. Pour certaines personnes, ce phénomène est très étrange et rare. Mais les gens de Bali ont prouvé que la relance de leur culture ancestrale, ils sont capables de sauver leurs chamberies qui ont été précédemment endommagées pour devenir fertiles à nouveau et conserver leur environnement pour devenir le meilleur environnement. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 août 1919, la signature de l'accord entre l'Iran et la Grande-Bretagne. L'accord entre la Grande-Bretagne et l'Iran, représenté par le premier ministre de l'Iran et le ministre britannique des Affaires étrangères. Selon l'accord, connu sous le nom Accord de 1919, la Grande-Bretagne a aidé l'Iran dans la fourniture des armes, la formation militaire et la construction d'un chemin de fer, en échange d'un accès aux champs de pétrole de l'Iran au Royaume-Uni. Mais la population iranienne et la communauté internationale ont refusé cet accord. Cet accord a été résilié le 22 juin 1921. Le 9 août 1945, le bombardement de Nagasaki. Le 9 août 1945, trois jours après l'explosion d'un bombe atomique à Hiroshima, les États-Unis ont largué la bombe atomique sur Nagasaki à la demande du président américain Harry Truman. La ville portuaire a été détruite et 80 000 personnes ont été tuées. L'impact de la matière radioactive à la bombe a ajouté le nombre des victimes. Le but américain dans l'attentat à la bombe est de battre le Japon et montrer la force de l'Amérique dans le monde. Le 9 août 1965, Singapour s'est retiré de la Fédération de Malaisie. En 1819, le chef de Johor, la Malaisie, a remis Singapour à l'entreprise des Indes orientales appartenant au Royaume-Uni. Depuis lors, Singapour a devenu officiellement une colonie de l'Angleterre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale, Singapour a été occupé par les Japonais. Le Japon a finalement rendu après que ce pays a été bombardé par les Alliés. Le Japon est sorti de Singapour et occupé de nouveau par l'Angleterre. Quand la Fédération de Malaisie a été formée en 1963, Singapour a fait une partie de la Fédération. Singapour s'est retiré de la Fédération de Malaisie pour être indépendant depuis le 9 août 1945. Le 9 août 1969, l'investiture de Richard Nixon en tant que 37e président de l'Amérique. Il est né à Yorba Linda, Californie, les États-Unis, le 9 janvier 1913. Il est devenu vice-président des États-Unis à 36 ans, de 1953 jusqu'à 1961, et le 37e président des États-Unis. Il a été le premier président des États-Unis qui a démissionné de son poste. Sa démission liée à un scandale de l'écoute électronique des opposants politiques appelé le scandale du Watergate. Il a annoncé la fin de la guerre du Vietnam qui a fait la mort des milliers de soldats le 23 janvier 1973. Cette annonce était une reconnaissance indirecte que l'Amérique a perdu la guerre en Asie du Sud-Est. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie et l'Ukraine ont signé la coopération dans divers domaines ». Le gouvernement indonésien a signé 4 coopérations bilatérales avec le gouvernement de l'Ukraine. La signature de 4 coopérations a été assistée par le président Joko Widodo et le président ukrainien Petro Porochenko. La visite du président ukrainien cette fois vise à renforcer les relations entre les deux pays après la dernière visite du président de l'Ukraine il y a 20 ans. L'Indonésie a exploré des renforcements de la coopération dans le commerce et l'investissement, y compris l'échange des idées sur des questions stratégiques au niveau international, a déclaré le président Joko Widodo après avoir reçu la visite de courtoisie du président de l'Ukraine, Petro Porochenko, au palais présidentiel vendredi le 5 août 2016. Joko Widodo apprécie la signature des 4 accords dans le domaine de l'agriculture, le visa, la formation diplomatique et la défense. Dans la réunion bilatérale, les deux présidents ont également discuté des coopérations dans le domaine du commerce, l'investissement et l'accès au marché pour les produits supérieurs indonésiens. L'Indonésie et l'Ukraine étudient la possibilité de la coopération dans le domaine de la fabrication de turbines pour les centrales électriques ainsi que l'investissement des produits de cacao. Les principaux produits indonésiens sont entre autres l'huile de palme brute, du papier, l'expansion de la distribution de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de l'Indonésie à l'Ukraine. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les deux présidents ont discuté notamment des efforts pour renforcer la coopération économique. Ils ont convenu que l'année prochaine, l'Indonésie recommencerait une réunion de la Commission de l'économie conjointe. Cette commission n'a pas organisé d'une réunion pendant quelques années. Selon Mme Retno Marsudi, il y a plusieurs domaines de coopération pour être discutés à la réunion de la Commission économique, comme par exemple la question de l'agriculture et le tourisme. Dans le commerce et l'investissement, il y a des potentiels très élevés, parce que les produits fabriqués par les pays respectifs ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Le président de l'Ukraine a également exprimé son soutien à l'Indonésie à devenir un candidat du Conseil de sécurité de l'ONU pour les années 2019 jusqu'à 2020. Concernant la signature de 4 protocoles d'accord, à savoir l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des passeports de service et la formation diplomatique, ainsi que les diplomates indonésiens seront formés dans leurs centres de formation diplomatique respectifs. La coopération dans le domaine de l'agriculture sont entre autres la recherche et la technologie agricole, l'échange d'experts dans le domaine de l'agriculture et des échantillons de produits agricoles, la coopération de l'élevage, la coopération de quarantaine des animaux et les plantes, le développement des produits alimentaires, d'encourager les investissements dans l'agriculture, etc. La coopération dans le domaine de la défense sont entre autres les échanges de visites, la coopération dans l'industrie de la défense et de la logistique, ainsi que l'échange d'informations dans le domaine de la défense et militaire. Chers amis, c'est la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Les 6 pays producteurs de poivre regroupés dans la Communauté internationale du poivre, IPC, se rencontrent à Jakarta du 8 au 11 2016 dans la 44e session et réunion de la Communauté internationale du poivre. Cette réunion est une forme d'engagement de continuer à renforcer la coopération entre les pays producteurs et les consommateurs afin de faire face aux défis de l'industrie du poivre à l'avenir. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tias Tolukita, lors de l'ouverture de la 44e session et réunion de l'IPC à Jakarta, a affirmé lundi, le 8 août, qu'il y avait 5 questions stratégiques qui nécessitent une attention de toutes les parties prenantes. Premièrement, les pays producteurs de poivre devraient être encouragés toujours à maximiser la contribution dans le secteur de poivre, dans la construction, la création d'emplois et la protection de la société par intermédiaire l'augmentation de la productivité, la diversification et la valeur ajoutée, ainsi que les aspects de marketing afin d'élargir le marché. Deuxièmement, la viabilité à long terme et la résilience du secteur de poivre dépend de nouvelles recherches et l'innovation qui renforcent l'industrie en amont et en aval. Troisièmement, la coopération et la coordination de toutes les parties prenantes pour stabiliser les prix. Le ministre Engar Tiasto a ajouté qu'une quatrième question qui devrait être l'accent est sur la qualité et les normes de sécurité alimentaire. Il est très important d'être une préoccupation parce que le marché est très concentré sur la sécurité et les normes de référence pour l'industrie alimentaire mondiale, y compris le poivre. Tandis que la cinquième question est liée à l'élargissement de l'adhésion de la communauté internationale du poivre qui se compose actuellement du Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et le Vietnam en tant que membre permanent et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en tant que membre associé. Lors de cette réunion, le ministre Engar a également eu l'occasion de donner le prix de la communauté internationale du poivre pour les producteurs et les exportateurs de chaque pays membre de la communauté internationale du poivre. Le commandant de l'armée nationale, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que les forces spéciales TNI étaient prêtes à déployer des troupes dans la zone d'opération pour libérer les citoyens indonésiens qui sont retenus en otage par le groupe Abu Sayyaf aux Philippines. Mais il n'a pas été facile car il implique la souveraineté territoriale des pays voisins. Jusqu'à présent, les citoyens indonésiens qui ont été pris en otage par Abu Sayyaf atteignent 11 personnes et ne sont pas encore libérés. Gatot Nurmantio a affirmé lundi à Jakarta que le gouvernement indonésien était toujours la priorité à la diplomatie dans ses efforts pour libérer les 11 citoyens qui ont été pris en otage, mais les résultats ne sont pas encore signifiants. Les entreprises publiques appartiennent à deux pays, PT Pertamina Persero de l'Indonésie et la Société nationale iranienne du pétrole, SNIP, ont signé un protocole d'entente d'une étude préliminaire sur le développement de deux champs de pétrole à grande échelle dans ce pays du Moyen-Orient. La signature a été faite par le président-directeur de Pertamina, Dwi Sucipto, et directeur général de la Société nationale iranienne du pétrole, SNIP, Ali Kardor, au siège de SNIP à Téhéran, en Iran. L'Iran est l'une des priorités de Pertamina. Nous sommes sérieux pour faire les investissements en amont qui soutiendra l'Iran dans l'amélioration de la production. Cela est en ligne avec les efforts de l'entreprise de soutenir la sécurité énergétique nationale, a déclaré Dwi par une déclaration écrite reçue par Antara mardi. Les deux sociétés ont également convenu d'explorer d'autres occasions d'affaires. Sur la base de ce protocole d'entente, Pertamina a 6 mois pour mener une étude et présenter une proposition préliminaire du développement des deux champs qui ont les réserves de pétrole environ à plus de 5 milliards de barils. Pertamina souhaite qu'après la signature du protocole d'entente, la coopération avec la Société nationale iranienne du pétrole puisse être réalisée plus concrète sous la forme de l'accord de contrat pour les deux champs pétrolières. Les ministres de l'Agriculture de l'Indonésie et Taïwan, à travers Bureau économique et commercial de Taïwan, établissent une coopération afin de développer les produits agricoles en établissant la Green House et Peking House à Lembang, la résidence de Bandung, ouest de la province de Java-Ouest, lundi. Le chef du Centre de la formation de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, Widi Haryono, a dit que cette coopération était une occasion pour l'Indonésie de développer des meilleures récoltes et de donner des impacts au bien-être des agriculteurs indonésiens. La coopération sous la forme de la formation de la gestion des exploitations agricoles et l'emballage des produits agricoles au public qui aura un impact sur l'augmentation du prix de vente des produits agricoles. Selon Widi Haryono, Taïwan coopérait avec la province de Java West et aussi Bali et Java Central. Le potentiel agricole en Indonésie est encore très grand afin d'être développé pour le bien public. Le commandant de la base de l'armée de l'air indonésienne Delta Hi Kupang, le colonel Jori Koloai, a affirmé que l'espace d'air dans la base aérienne de l'armée de l'air indonésienne, TNI-AU, a été déterminé par le leadership de TNI-AU comme base de l'exercice de vol et la coopération internationale. Jori Koloai a déclaré aux journalistes en marge de l'exercice de vol en 2016 dans la base aérienne Delta Hi Kupang, lundi, a expliqué que la détermination de ce lieu d'être l'exercice de vol conjointe avec les pays voisins a été faite depuis l'année dernière. Comme cité par Antara, l'exercice de vol est plus concentré sur les pays voisins, y compris le Timor oriental et l'Australie. Un total de 7 ambassadeurs des pays voisins d'Indonésie sont présents au Festival culturel de la Vallée Balium qui se tient du 8 au 10 août 2016 au district de Walesi, la préfecture Jayawijaya. Le vice-régent de Jayawijaya, John Richard Banua, à Wamena a déclaré lundi que 7 ambassadeurs provenaient de la Suisse, l'Italie, l'Arménie, la Hongrie, la Bulgarie, le Mexique et l'Inde. Il espère que l'arrivée des ambassadeurs peut donner une bonne impression pour la Papouasie, en particulier Jayawijaya. John Richard a affirmé que ce festival culturel était un festival qui a lieu chaque année. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525. Et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé L'île de Dodola. Chers amis, aujourd'hui nous vous invitons à visiter l'île de Dodola située au Moluques. Morotai est le nom d'une île ainsi que le district à l'île de Halmahera au Moluques. Ce quartier offre la charme du monde sous-marin avec la beauté des récifs coralliens. Les eaux de Morotai deviennent l'une des meilleures destinations en Indonésie pour les amateurs de sport de la plongée sous-marine. L'un des meilleurs sites de plongée peuvent être trouvés sur l'île de Dodola. L'emplacement est situé dans l'ouest de l'île de Morotai. Là-bas, il y a au moins 13 places de plongée que vous pouvez visiter. L'île de Dodola est en fait divisée en deux. telles que Grand Dodola et Petite Dodola. La beauté des deux îles ne diffère pas beaucoup. Le sable de la plage est très blanc sous forme de poudre. Vous aimez vraiment les bains de soleil sur la plage. La mer est turquoise et limpide. Fait intéressant, si elle est en recul, ces deux îles sont reliées par le sable blanc. Le sable blanc est comme le pont caché. Comme si la mer se sépare, il y a des paysages incroyables et très beaux. Vous pouvez marcher sur le sable pendant 10 minutes pour traverser. Il y a beaucoup d'activités passionnantes que vous pouvez faire sur l'île de Dodola, parmi lesquelles nager, plonger, pêcher ou bien jouer le hors-bord. Au moment de la plongée, non seulement la beauté des récifs coralliens qui peut être appréciée, mais aussi la beauté de certains des navires et des avions irrécupérables. Parce que, dans le passé, Morotai était chambre de guerre entre le Japon et les Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. En plus de profiter de la beauté naturelle, à cette île, vous pouvez également profiter des traditions et la culture unique. Des diverses traditions locales sont souvent présentées dans ce lieu, comme par exemple la tradition d'ouvrir la récolte Wangongira, qui a lieu chaque juin de chaque année, et la tradition de lancer Timbalaor, une tradition locale qui a lieu après la pleine lune. Pour se rendre à l'île de Dodola de la ville Ternate au Molouk, vous pouvez prendre l'avion Kisna de Morotai à Ternate avec des départs tous les lundis, mardi et mercredi, et vice-versa pendant 45 minutes, et ensuite louer un bateau à moteur de la ville de Daruba, Morotai, vers l'île de Dodola. Le trajet dure environ 30 minutes. Pour les taux de location de hors-bord, c'est environ 500 000 jusqu'à 1 million de rupiah par trajet. Vous pouvez passer la nuit sur l'île de Dodola, mais infrastructures sont minimes. Le taux d'hébergement est autour de 100 000 jusqu'à 250 000 rupiah par nuit. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici notre programme Apprendre l'indonésien. Le sujet aujourd'hui est membeli karcis kereta api. Je répète, membeli karcis kereta api, ou en français, acheter le billet de train. D'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Membeli. Membeli. En français, acheter. Karcis. Karcis, en français, billet. Kereta api. Kereta api, en français, train. Mudah. Mudah, en français, facile. Sekarang. Sekarang, en français, maintenant. Kamu. Kamu, en français, vous. Melalui. En français, par l'intermédiaire ou via. Mini market. En français, mini marché. Charat. En français, condition. Memesan. En français, réservé. Nama. En français, nom. Sesuai. En français, conforme à. Tanda pengenal. En français, signe d'identification. Carte tanda penduduk. En français, carte d'identité. Passeport. En français, passeport. Tanda bukti. En français, preuve. Menukarkan. En français, échanger. Waktu keberangkatan. En français, heure de départ. 24 jam. En français, 24 heures. Chers amis, maintenant je vais donner un exemple de conversation intitulé « Membeli kartis kereta api » ou en français « Acheter le billet de train ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Cette conversation entre Mary A et Nofi B au bureau. A. Saya mau ke Surabaya naik kereta api. Saya mau ke Surabaya naik kereta api. En français, je vais aller à Surabaya en train. Di mana saya bisa beli kartisnya? En français, où est-ce que je peux acheter le billet? B. Sekarang, membeli kartis kereta api sangat mudah. En français, maintenant, c'est très facile d'acheter le billet de train. Kamu bisa membeli kartis melalui online atau di minimarket. En français, vous pouvez l'acheter par l'intermédiaire d'en ligne ou au mini-marché. A. Apa saja syaratnya? En français, quelle est la condition? B. Kamu harus memesan dengan nama sesuai tanda pengenal kamu. En français, vous devez réserver conformément à votre signe d'identification. Misalnya, sesuai dengan kartu tanda penduduk atau paspor. Par exemple, le carte d'identité ou le passeport. A. Apakah ada syarat lainnya? En français, y a-t-il d'autres conditions? B. Tidak ada. En français, non. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarnya dengan kartis kereta api. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarkannya dengan karcis kereta api. En français, après avoir obtenu la preuve de réservation, vous devez l'échanger avec le billet de train. A. Harus segera ditukarkan atau bisa pada waktu keberangkatan. Harus segera ditukarkan atau bisa pada waktu keberangkatan. En français, est-ce que je dois immédiatement l'échanger ou je peux le faire à l'heure de départ? B. Waktu penukarannya 24 jam sebelum waktu keberangkatan. Waktu penukarannya 24 jam sebelum waktu keberangkatan. En français, le temps d'échange est 24 heures avant l'heure de départ. A. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En français, très bien, merci. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à demain.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.ce.id ou à travers notre émetteur à onde courte sur 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des nouvelles chansons pop chantées par Yura Yunita. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Yura intitulée « Musique berawal dari tatap ». Bonne écoute.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia
Chers auditeurs, c'était la chanson de Yura Yunita intitulée « Musique berawal dari tatap ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de Minzi sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La chanson intitulée « Musique berawal dari tatap » qui a été lancée au début de l'an 2016 raconte quelqu'un qui tombe amoureux au premier regard. Les paroles sont si poétiques et composées par Yura. Et maintenant, grâce à cette chanson, Yura place aux meilleures chanteuses dans les grandes villes indonésiennes. La chanteuse, le vrai nom Yunita Rahman, a commencé sa carrière en suivant le spectacle de talent en 2012. Puis finalement, Yura a publié le premier album intitulé Yura dans 2014. La chanson berawal dari tatap est le troisième single. Lorsqu'elle a sorti son album, Yura a publié un premier single intitulé Ballad Cirque en septembre 2014. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante intitulée Ballad Cirque, chantée par Yura. Bonne écoute.
Ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat. Kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari menari di atas tali. Takut jatuh, aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi, walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Ku di balada sirkus, wajahku tertutup make up, kompas tubuhmu akan aku tangkap, hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terus berbunyi, tubuhku terus atraksi.
ingin kau datang. Saksikan ku di balada sirkus.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.